Bonjour Pierre Laury, directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études Sorbonne, est intervenu dans le cadre des mardis de l'IEA Oulu sur le thème « La mystique en islam ». Il est l'invité du magazine. À l'origine des études.
Au départ, j'avais fait des études de sciences politiques avec le but plus ou moins avoué d'entrer dans la diplomatie ou dans les relations internationales. Et donc j'ai fait de l'arabe et j'ai fait un stage au Proche-Orient, au Liban. C'était en 73, c'était à l'époque où il y a eu la guerre dite d'octobre. Et les pays que j'ai découverts étaient des pays qui étaient très déchirés, qui le sont toujours, qui étaient très bloqués au point de vue social et qui le sont toujours, dans une situation qui m'avait un peu heurté. Je pensais qu'il y aurait eu plus de dynamisme. Et donc, d'un côté, j'étais surpris par le blocage des sociétés et d'autre part, par la richesse de la culture ancienne. C'est-à-dire que la culture médiévale, il faut bien dire, quand même, contrairement à la culture arabe moderne, est extraordinairement riche, plurielle, libre, avec des opinions très différentes. C'était absolument fascinant. Et donc je me suis spécialisé dans la culture arabe plutôt médiévale et dans l'islam médiéval, dans l'islamologie de cette époque-là. Et je dois dire, c'était avec délectation. Et j'ai découvert un peu par hasard, mais enfin, c'est un hasard que j'aurais croisé de toute façon, ce qu'on appelle les soufis, les milieux soufis, c'est-à-dire des musulmans qui sont musulmans comme les autres, en ce sens qu'ils adhèrent au Coran, qu'ils ont le même culte que les autres musulmans, mais en plus qui considèrent qu'il y a dans le Coran tout un contenu qui ne tombe pas sous le sens, qui ne se trouve pas dans la lettre du Coran, et que ce contenu est accessible par tout un travail intérieur. Donc c'est une façon de lire le Coran et de vivre l'islam qui était vraiment très profondément différente. Et à ce moment-là, donc dans les années 73-74, j'ai découvert tout un continent sous la société musulmane ordinaire. Et pour ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, et puis pour mon doctorat, j'ai approfondi des textes de cette époque-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire une spécialisation plus tard à l'université.
Et en version originale.
Oui, c'est ça. Donc les textes principaux étant en arabe, j'ai fait un peu de persan, mais surtout arabe, puisqu'il s'agit de commentaires du Coran. Et j'ai fait, pour mon travail de maîtrise, une analyse d'un commentaire mystique du Coran. Ou alors, l'auteur, qui est un auteur du XIVe siècle, reprend en quelque sorte, verset après verset, le texte du Coran, en disant qu'en fait, le Coran s'applique à la vie spirituelle du lecteur. Que lorsqu'il est question de guerre, de Moïse et de Pharaon, lorsqu'il est question de Jésus, d'Abraham, etc. En fait, ces histoires s'appliquent à l'évolution de l'être humain. L'être humain est en évolution et le Coran, symboliquement bien sûr, l'aide à s'accomplir lui-même. Alors mettons l'histoire de Moïse qui part dans le désert, qui s'enfuit loin de Pharaon, puis qui monte au sommet du mont Sinaï. C'est en fait le symbole de l'âme qui s'extrait du monde et qui petit à petit s'isole et s'élève en quelque sorte auprès de Dieu.
Il y a une définition, ou votre définition du mysticisme ou du mystique en islam ?
Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait le terme même de mystique, même en français d'ailleurs, n'est pas du tout évident. Alors, je fais la différence suivante, qui est tout à fait claire dans la société islamique, c'est que le musulman ordinaire, celui qui n'est pas mystique, il accomplit la loi, il prie 5 fois par jour, il jeûne pendant Ramadan, et pour lui la religion c'est l'application de la loi. C'est cela, en quelque sorte, pour la simple et bonne raison que Dieu, on ne peut pas le connaître. Dieu est beaucoup trop éloigné. Ce n'est pas quelque chose, quelqu'un auquel on puisse avoir accès. Donc, on se contente d'appliquer la volonté de Dieu. Pour les mystiques, par contre, au contraire, Dieu est tout à fait proche. Il s'agit d'un être dont on peut avoir expérience. Et c'est ça la différence, en quelque sorte. Et pour les musulmans ordinaires, ben on attend l'au-delà, on attend la récompense du paradis pour peut-être être proche de Dieu. Pour les mystiques, ce qu'on appelle les soufis, c'est possible de le faire avant la mort. Cette expérience est d'une certaine manière possible avant la mort, ce qui change tout. Parce que si on dit qu'on peut de quelque manière rencontrer un élément divin ou une présence divine avant la mort, c'est tout le temps qui est bouleversé. C'est comme si l'éternité faisait intrusion dès notre vie d'ici-bas. C'est pour ça que je crois que c'est un domaine qui mérite vraiment d'être étudié avec attention pour voir combien, dans la société musulmane, il y a non seulement des pensées différentes, mais des manières de vivre qui sont profondément différentes. D'abord, tous les mystiques, tous les soufis se veulent des bons musulmans. Pour l'immense majorité, ils respectent la loi, tout à fait comme les autres, peut-être même plus que les autres. Ils sont donc des croyants très scrupuleux. Donc il n'y a pas une opposition, en tout cas pas de leur part. Par contre, du côté de ceux qui sont simplement pratiquants et qui ne sont pas mystiques, il y a de la méfiance, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu suspect dans cette attitude, parce que si on dit qu'on a un contact avec Dieu, mais dans ce cas, quel est le rôle du prophète Mahomet? Dans l'islam ordinaire, c'est le prophète Mahomet qui fait un lien entre Dieu et les hommes. Si chaque homme peut avoir un lien en quelque sorte direct avec Dieu, ça casse un peu la structure du système. Et donc, il y a eu de la méfiance. Il y a même eu des procès. Il y a eu des mystiques qui ont été condamnés, effectivement, par des tribunaux, comme étant, mettons, mauvais croyants ou hérétiques. Mais, globalement, il y a eu une sorte de modus vivendi qui s'est installé. C'est-à-dire que, dans la mesure où les mystiques, les soufis restaient discrets, dans la mesure où ils ne faisaient pas de troubles à l'ordre public, dans la mesure où ils ne contestaient pas l'ordre politique, on les laissait tranquilles. Ce qui fait que la vie des soufis s'organise de façon extrêmement discrète, un peu comme dans des loges maçonniques. C'est pas clandestin. Enfin, c'est discret, on se réunit telle fois, tant de fois par mois pour accomplir des rituels, etc. Et ça se passe comme ça, moyennant quoi c'est toléré. Mais depuis 2 siècles, il y a une violente opposition qui s'est montée contre les soufis de la part d'un mouvement qu'on appelle les Wahhabites et qui sont surtout présents en Arabie Saoudite avec toute l'appui logistique que donne l'Arabie Saoudite. Et pour eux, pour le wahhabisme, il ne peut y avoir de contact avec Dieu, il ne peut y avoir de religion que dans l'obéissance à la loi. Et donc ils sont très violemment contre les mystiques. Toutes les institutions des mystiques qui existaient en Arabie ont été détruites. Hein. Les confrères et soufis n'ont pas le droit d'exister. Et il y a une campagne de presse, une campagne sur Internet très très virulente de la part des wahhabites contre les mystiques, qui d'ailleurs se défendent, bien sûr, ils se défendent. Mais ça montre bien qu'il y a là 2 manières de vivre la religion qui s'opposent de façon, pour cette fois-ci, irréconciliable. Et irréconciliable, au fond, pourquoi? C'est pour des raisons de pouvoir. Parce que tout pouvoir politique, comme en Arabie Saoudite, passe par l'hégémonie sur les consciences. Donc on comprend bien, de la part du pouvoir saoudien et des autres monarchies du Golfe, que si on est mystique, si on a cette recherche-là, on échappe malgré tout de quelque manière au pouvoir politique.
Ce sont 2 démarches religieuses, et une qui est plus spirituelle que l'autre, non ?
Oui, c'est ça. Il y a 2 démarches religieuses, mais qui s'articulent différemment. Il y en a une qui, pour qui la religion, c'est rigoureusement la pratique. C'est un peu comme dans le judaïsme, d'ailleurs. La religion, c'est d'abord accomplir les rituels demandés par Dieu de façon la plus scrupuleuse possible. C'est ça d'abord. Après, on peut spéculer, après on peut être plus ou moins dévot, mais il faut d'abord accomplir des actions. C'est ça, la religion, ce sont des actions. Et puis, alors, et comme vous dites, il y a des modes religieux plus spirituels, c'est-à-dire pour qui la religion, c'est quand même une affaire de vécu intérieur. Et effectivement, il y a là une différence importante qui, parfois est en compétition, parfois est en lutte, et parfois est en parfaite harmonie, parce que ça existe aussi.
Si on m'avait interrogé spontanément pour me mettre en connexion avec le thème de votre conférence, j'aurais cité un poète persan, Omar Khayyam, et les soufis.
Alors, les soufis eux-mêmes sont assez divers. Il y a chez les soufis des gens qui sont très conservateurs. On a parfois tendance à dire, oui, les soufis étant plus spirituels, sont plus libéraux que les autres. Un peu, mais enfin, c'est pas forcé, c'est pas systématique, ils peuvent souvent être très pratiquants. Mais disons que chez eux, il y a en tout cas une nette différence qui est faite entre la religion en tant que pratique et la religion en tant que recherche spirituelle. Donc ça, c'est bien le soufisme. Dans le cas d'Omar Khayyam, on aboutit, c'est encore un autre univers. Omar Khayyam est au fond un libre penseur. D'ailleurs, il semble que ce ne soit pas lui qui a écrit tous les poèmes qu'on lui attribue. Mais enfin, peu importe. Il y a tout un courant de poésie persane avec lui qui disent, mais au fond, après la mort, il n'y a rien du tout. La religion est une tromperie. Il y a alors, en Iran notamment, ou en Turquie, tout un courant anticlérical qui n'est pas foncièrement anti-religieux parce qu'il ne s'attaque pas frontalement à la religion, mais il s'attaque aux clergés, aux mollahs qui amassent de l'argent, qui demandent aux gens toutes sortes de vertus qu'eux-mêmes n'appliquent pas du tout. Ça existe très fort dans ces pays-là, des tendances anticléricales, mais qu'il faut distinguer, bien sûr, du sentiment anti-religieux, parce qu'on peut être très mystique et très anticlérical. Il faut reconnaître que dans le cas précis de l'islam, le Coran donne deux directives qui sont vraiment divergentes, on peut dire. D'un côté, le Coran dit « Vous pouvez profiter des bienfaits de ce monde. Ne vivez pas comme des ascètes. La bonne nourriture, le mariage, tous ces plaisirs vous sont donnés par Dieu. Et profitez-en. » Donc, ce qui fait que la moyenne des musulmans sont invités à vivre sobrement, sans excès, bien sûr, mais il n'y a pas d'ascèse. Le célibat est formellement découragé. Il y a une espèce de devoir moral de se marier. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas l'ascétisme. Mais d'autre part, le Coran dit également il faut se détourner de ce bas monde. Tout ce bas monde n'est qu'un piège, seul l'au-delà importe, seule la vie de l'au-delà a du sens. Et donc, il y a au contraire une invitation à essayer de se détourner de la vie et des plaisirs de ce bas monde. Donc, les deux injonctions existent. Alors, partant de là, vous avez des musulmans qui suivent plutôt l'un ou plutôt l'autre. Vous avez aussi des ascètes extrêmement, alors qui mangent à peine, qui passent toute leur nuit à prier, qui vivent dans la plus grande pauvreté, un peu comme des moines, sauf que je le répète, il n'y a pas de célibat, il n'y a pas de couvent, en principe, en islam.
On n'a pas situé l'époque à laquelle on se réfère.
Alors, l'islam naît au 7e siècle, et va se diffuser ce qu'on appelle le Moyen-Âge, ou l'âge d'or, disons, de la civilisation musulmane, correspond à notre haut Moyen-Âge, c'est-à-dire, disons, à partir du 8e, 9e siècle, alors là, le califat de Bagdad est rayonnant, puis ça a continué jusqu'au 12e, 13e siècle. Mais on peut dire que lorsqu'on parle de l'islam classique, il se prolonge jusqu'au XVIIIe siècle, en gros jusqu'à l'époque coloniale. C'est-à-dire que cette civilisation-là, cette culture-là, s'est maintenue. Donc on peut le dire depuis le 8e, 9e siècle jusqu'à l'époque moderne. Alors après, bien sûr, il y a eu les invasions coloniales, la modernisation, tout ça. Alors tout a été complètement remis en question. Et d'une façon extrêmement brutale, dont le monde musulman ne s'est pas encore remis, ça c'est clair.
Pierre Lory, directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études Sorbonne, est l'invité du magazine. Thank you.
comme je disais tout à l'heure, à l'époque ancienne de la culture musulmane, il y avait une grande diversité dans les opinions. Alors il y avait tout un courant rationaliste très tôt qui s'est manifesté, qui disait « le Coran, on ne peut le comprendre que par la raison ». Donc c'est l'antipode du soufisme. Les soufis disaient « le Coran, il y a des sens secrets ». Et la tendance rationaliste était « non, il faut que le Coran cadre avec la raison, avec la spéculation rationnelle ». Il y a eu ça, il y a eu une influence de la philosophie grecque, de Plotin, d'Aristote, beaucoup. Donc il y a eu toute une intelligentsia qui a été fascinée par la pensée hellénique. Et puis il y a eu les soufis, il y a eu un attrait pour la science. Donc à cette époque-là, donc 8e, 9e, 10e siècle, il y a eu tout un bouillonnement. Il y a eu les mouvements chiites qui étaient extrêmement aussi riches et innovants dans le domaine de la réflexion sur le rapport de l'homme à la vérité. Et alors, au fur et à mesure que s'est installé le sunnisme comme pensée dominante, il y a eu une tendance à vouloir homogénéiser la pensée islamique. Il n'y a pas d'église en islam, donc finalement c'est l'État, c'est chaque sultanat, chaque califat qui avait sous sa responsabilité de gérer un peu les affaires religieuses, ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait enseigner dans les écoles par exemple. Et donc petit à petit, on en est venu à un islam traditionnel actuel qu'on appelle le sunnisme, qui est de dire que bon, le Coran se comprend en fonction de ce que aurait commenté le prophète, donc Mohammed lui-même, avec des applications juridiques qui se sont petit à petit fixées. Donc la créativité a été moindre, disons, à partir du XIIIe, XIVe siècle. Et donc il y a une certaine tendance à la répétition. Ce qui ne veut pas dire que le monde musulman était complètement stérile et ankylosé à l'époque, mais enfin, disons, il a perdu de sa vigueur et de son innovation. Du 11e, 12e siècle, le Moyen-Âge latin, donc, a reçu par des traductions de l'arabe au latin les œuvres de grands penseurs arabes, mais qui étaient des penseurs helléniques, qui étaient des commentateurs d'Aristote, qui étaient Avicenne, Averroès, donc qui sont des penseurs musulmans. On ne peut pas dire que ce soit véritablement une pensée islamique, mais enfin c'était une pensée d'origine hellénique qui était repassée, qui a été réfléchie, enrichie, disons, par des penseurs arabes et musulmans, et qui se voulaient musulmans eux-mêmes. Donc par ce biais-là, il y a eu un apport du monde arabo-musulman à l'Europe occidentale. Le soufisme lui-même, non. Le soufisme lui-même, en tant que spiritualité, n'a pas été bien connu de l'Occident latin, comme si là, il y avait quelque chose, il y a une spiritualité très différente, la spiritualité chrétienne, qui est imprégnée de l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que donc la mystique consiste à accomplir l'image de Dieu en soi, n'était pas tellement compatible avec l'idée musulmane que finalement, par rapport à Dieu, l'homme n'est rien. Donc c'est un peu une mystique d'anéantissement en Dieu. La perspective était assez différente. Par contre, alors, il y a eu d'étonnantes convergences entre la mystique musulmane et la mystique juive au Moyen-Âge, qui est visiblement partagée des démarches, des expériences, voire même des formules.
Si maintenant j'aborde la question de la laïcité sous l'angle du mysticisme, c'est compatible ?
Alors, Globalement, la question se pose un peu de la même façon, mais il y a quand même une nuance importante. C'est que pour les soufis, comme je le disais à l'instant, il existe quand même, dès le départ, une différence dans la démarche purement religieuse, la pratique religieuse, d'une part, et d'autre part, la démarche spirituelle. C'est-à-dire que dans un régime séculier, un soufi pourra beaucoup plus facilement faire le départ entre ce qui est séculier et ce qui est spirituel. Pour un musulman, pour qui la pratique de la religion, c'est la religion, ce sera beaucoup plus difficile. Il est certain que pour un musulman ordinaire, ce qu'il mange, c'est ça sa religion. Donc toutes ces affaires de cantine, de régime, de vêtements féminins, si ça provoque tellement de grincements, c'est parce que pour beaucoup de musulmans, c'est ça la religion. On ne peut pas simplement dire, comme font les laïcs occidentaux, qu'est-ce que c'est un bout de vêtement, c'est un menu dans un restaurant. Pour un musulman pieux, pas du tout. C'est la religion, c'est ça. Ça engage son salut pour l'éternité. Enfin. Alors que dans l'islam mystique, on est quand même beaucoup plus souple. On sait bien que c'est pas simplement la matérialité du rite qui compte, mais c'est bien sûr l'attitude intérieure qui accompagne ce rite.
Tout le monde pourrait arriver à vivre ensemble. En fait.
Oui. Oui, les soufis, tout au cours des siècles, ont acquis une pratique de vie qui est axée dans la discrétion. Donc c'est pas clandestin. C'est pour ça que je faisais un peu la comparaison avec les francs-maçons. Ils sont discrets. Et effectivement, dans une société, dans quelque société que ce soit, finalement, ils trouvent leur place sans gêner personne. Je me souviens que j'avais été invité à l'université de Pékin pour donner des cours sur le soufisme, précisément. Et à la fin d'un cours, il y a des étudiants qui arrivent en disant « Mais vous savez, nous, on est soufis. » Mais ils le faisaient très, très discrètement. Ils ne le montraient pas de façon spectaculaire. Mais ils s'acclimataient à ce que le régime communiste leur permettait de faire dans le cadre précis de l'État chinois. Donc, je crois que c'est un peu partout pareil. Donc, d'une certaine façon, je crois qu'il y a une attitude qui est très instructive, disons, chez les différentes confréries soufis. Très innovantes, parfois.
Et ils sont au nombre de...
Oula, ça c'est impossible à dire, parce qu'elles bourgeonnent. C'est-à-dire qu'une confrérie s'attache à la personne d'un maître. Alors, le maître peut avoir des successeurs, mais ces successeurs peuvent s'instituer maîtres eux-mêmes et fonder une nouvelle confrérie. Alors, il y a des grandes confréries, des traditions liturgiques, mais en fait, des confréries locales, il y en a des centaines. Des centaines et des centaines. Et qui fonctionnent à un niveau local. Il n'y a pas d'organisation supranationale des confréries soufis. Et ce qui est à la fois leur force, parce que du coup, elles sont localement très implantées autour d'un maître qui contrôle bien tout, et aussi en même temps leur faiblesse, parce qu'il n'y a pas de centralité.
Et si c'est le maître qui se désigne soufi, sur quelle base ?
Il affirme avoir bénéficié de l'enseignement d'un autre maître, donc c'est une initiation qui est censée remonter très très loin jusqu'au prophète Mohammed lui-même, hein, c'est ça. Et d'une part, et d'autre part, elle trouve des disciples qui les considèrent comme maîtres. C'est comme partout. Ce sont les disciples qui font le maître. Et bon, là, donc, il y a actuellement quelques maîtres qui ont des milliers de disciples. Ce que d'ailleurs, la technique moderne rend possible. À l'époque médiévale, quand on allait voir un maître, il fallait faire des centaines de kilomètres. Le maître pouvait accueillir quelques dizaines de disciples, enfin pas trop non plus, tandis que maintenant, avec Internet, la radio, la télévision, donc il y a des maîtres soufis qui ont des dizaines de milliers de disciples à la fois. Évidemment, ils ne les connaissent pas toujours personnellement, mais enfin, bon, ça... Il faut bien dire qu'il y a aussi une dilution du coup du rapport avec le soufisme. À partir du moment où on peut adhérer à une confrérie en cliquant sur son ordinateur depuis chez soi, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on faisait à l'époque médiévale, où on allait voir un maître, on avait un long entretien avec lui, on se confiait au maître, on lui disait les rêves qu'on avait faits, et le maître donnait des conseils beaucoup plus personnalisés.
Il y avait une initiation.
Et il y avait une initiation, tout à fait, qui pouvait durer des années, des dizaines d'années même parfois. C'était le maître qui désignait tel ou tel disciple comme étant digne d'être à son tour investi ou pas.
Là, on parle d'un monde d'hommes uniquement.
Oui. Ceci dit, il y a eu des mystiques femmes, bien sûr, depuis les origines. Le problème, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose, parce que la très abondante littérature soufie que nous avons, elle a été écrite par des hommes, pour des hommes. Alors, à l'occasion, elle fait allusion à telle ou telle femme, mais de toute façon, les maîtres spirituels étaient des hommes. Donc, il est sûr qu'il y a eu de très grandes saintes femmes, mais on n'en connaîtra jamais beaucoup.
Il y a peu de chance pour qu'il en émerge aujourd'hui.
Si, au contraire, maintenant, plus, effectivement, les femmes sont très nombreuses, peut-être même qu'elles sont majoritaires au sein des ordres. Mais, donc, elles sont des disciples femmes d'un maître homme, mais il commence à apparaître alors des figures féminines qui prennent leur autonomie maintenant. Mais ça va être long parce que la tradition musulmane est quand même très, très, très masculine de ce point de vue-là.
Je crois comprendre qu'il y a des confréries soufis en France.
Oui.
Peut-être même à Nantes.
À Nantes, peut-être, oui. Enfin, je ne connais pas, mais il y a plusieurs grandes confréries qui sont répandues en France. Il y a notamment des confréries d'origine maghrébine, donc Qadiriyya, il y a Chazeliyya, et qui ont certainement des dizaines de milliers de disciples à des degrés divers, parce que là encore, on peut être disciple d'un maître en allant le voir très très régulièrement, on peut être disciple d'un maître en allant le voir une fois par an, on peut être simplement disciple en versant une obole à la confrérie, on ne peut pas chiffrer, c'est très difficile de chiffrer véritablement le nombre de musulmans français soufis. Mais enfin, disons que ce n'est pas du tout négligeable. Ce n'est pas du tout négligeable. Je pense qu'ils se comptent pour les soufis militants, ils se comptent certainement par dizaines de milliers.
Merci à Pierre Lory, directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études Sorbonne, pour sa libre participation à ce magazine.
Ce qu'on appelle des riches tourneurs, c'est la confrérie des Mevlevi. C'est une des confréries soufis qui existent, qui ont leur rituel, qui est donc cette sorte de danse giratoire, et qui est née au XIIIe siècle en Asie mineure, sous l'impulsion de Rumi, qui était un très grand maître spirituel, un géant, qui est aussi un des plus grands poètes de la langue persane, et qui était un extatique, quelqu'un qui trouvait la spiritualité dans la beauté de la musique, dans la beauté de la nature, et donc qui a initié cette confrérie qui a continué après lui, qui continue encore jusqu'à nos jours, principalement dans les régions d'Asie mineure, Balkans, Proche-Orient. Oui, c'est ça ce que je veux dire, l'Asie mineure. Oui, enfin, alors, le problème, Turquie, c'est que Mustafa Kemal Atatürk a supprimé toutes les confréries soufis. Donc il a aussi supprimé la confrérie des Mevlevi, des Derviş Tourneurs, pour des raisons politiques. Mais elle a pu se maintenir en tant qu'activité, disons, culturelle, folklorique. Alors, on ne sait pas si les gens qui la pratiquent maintenant ont encore quelque chose en eux de l'idéal soufi ou pas. Mais ça a été un coup très dur, malgré tout, pour le soufisme, que cette prise du pouvoir par Kemal Atatürk.
Donc il y a des derviches profanes.
Non, mais c'est maintenant, en Turquie, oui, c'est ça, c'est des derviches. Oui, on peut les appeler folkloriques. On trouve d'ailleurs dans des grands hôtels pour touristes au Proche-Orient des gens qui se produisent et qui font ces danses derviches. Ça n'a plus beaucoup de sens, évidemment.
Se tourneront.
Voilà, exactement.